Chapitre 2. Le pour et le contre. D'une plume qui courait rapidement sur le papier, Edgar écrivit la lettre suivante. Au docteur Marchmont. En lisant ceci, ne m'accusez pas de précipitation, mon cher docteur, et ne me croyez pas capable d'oublier la sagesse de vos conseils. Camilla n'est pas heureuse. Quelque chose que je ne connais pas a troublé la douce sérénité de son âme. Elle m'a défendu d'en rechercher la cause. Un seul moyen me reste pour me donner droit à sa confiance. Oh, docteur, ne vous étonnez pas si j'éprouve le besoin de la consoler dans ses peines, de la défendre contre les dangers, de donner une nouvelle force à sa vertu. Ne me faites pas l'injustice de penser que je sois excité ou aveuglé par des charmes extérieurs. Oh non, si Camilla eût été privée de ses attraits par la désastreuse maladie qui a traité si cruellement sa pauvre sœur, elle n'en serait pas moins sûre de captiver mon âme. Sa figure, sa taille, quoique belle, ne sont pas les attraits qui me séduisent. C'est cette vive intelligence qui se montre dans ses yeux, c'est cet esprit modéré par la douceur et cette douceur animée par l'esprit. C'est ce naturel si noble au-dessus de tout artifice. Ô docteur, rendez-moi sur le champ la promesse que je vous ai faite. Edgar Mandelbert. À Clèves, vendredi matin. Camilla, cependant, retirée dans sa chambre, pleurait amèrement. Le trouble de son esprit, la confusion de ses idées et de ses sentiments, la rendaient incapable de réflexion. Pressée de nouveau par Eugénia, elle ne put refuser plus longtemps à sa tendre inquiétude la confidence de ceux qui l'affligeaient. Heureuse au moins, en expliquant la cause de son affliction, de n'être plus forcée d'en réprimer les effets. Mais, à sa grande surprise, Eugénia lui demanda froidement « Est-ce tout, ma chère Camilla ?»« Tout ?» s'écria celle-ci. « Mais oui, je craignais qu'il ne vous fût arrivé quelque grand malheur. »« Et que pouvait-il m'arriver de plus pénible, de plus cruel ?»« Mille choses, ceci n'est qu'un malentendu. Pourquoi vous rendre malheureuse lorsque vous ne méritez aucun blâme ?»« N'est-ce rien que d'être accusée d'intentions si criminelles ?» Puisque l'accusation est injuste, c'est Miss Margland qui doit seule s'affliger. Frappée de cette observation, Camilla essuya ses yeux et s'efforça de reprendre sa tranquillité. Mais, ajouta-t-elle, ce ne sont pas les calomnies de Miss Margland qui me font le plus de peine, c'est le mauvais procédé d'Indiana. Il est vrai qu'elle est bien répréhensible et je le lui dirai. Mais enfin, si ma sœur craint de perdre Edgar, vous devez lui pardonner. Vous devez avoir pitié d'elle. » En ce moment, Camilla reçut une invitation de descendre de la part de son oncle. « Ma chère Camilla, lui dit-il, avec un regard où se peignait son chagrin, il y a bien du bruit ici. Je ne puis cependant vous blâmer, ni le jeune Mandelbert. On ne peut forcer les inclinations, je le sais. Seulement, ma chère, je vous demande de ne pas traverser les vœux de votre cousine. » « En vérité, mon cher oncle, je ne mérite pas ce reproche. Je ne suis pas capable d'une semblable trahison. »« Trahison ? Dieu nous en garde ! Trahison ! » s'écria Sir Hugh en l'embrassant tendrement. « Ne sais-je pas que vous êtes innocente comme l'enfant qui n'est pas encore né, plus innocente encore, puisque vous avez l'avantage d'avoir plus de jugement pour vous guider ? Trahison, ma chère Camilla ! Comment ? Je ne connais personne de meilleur que vous dans tout l'univers. » Indiana parut peu satisfaite et ne dit pas un mot. Mais Miss Margland, d'un air d'approbation qui servait de voile à sa méchanceté, « Pour que tout soit bien, dit-elle, pour que les deux jeunes personnes soient amies comme par le passé, pour que la conduite de M. Mandelbert revienne celle d'un homme bien né, il faut seulement que Miss Camilla fasse comme elle voudrait qu'on fît pour elle, qu'elle lui fisse perdre toute espérance. » Indiana déclara que les intentions de M. Mandelbert étaient la dernière chose qu'elle désirait. « Ma chère Indiana, dit Sir Hugh, Mandelbert est un bon enfant. Et quant à votre cousine Camilla, je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle est toujours la même. Mais je pense avoir trouvé la raison de ceci. Les jeunes gens de nos jours sont froids et peu galants. De mon temps, ils étaient de même. J'en ai véritablement rougi plus d'une fois. Mais à présent, j'ai pris mon parti là-dessus. » « Eh bien, voici ce qui reste à faire, » reprit Miss Margland, « que Miss Camilla ne barre pas le chemin à M. Mandelbert. qu'elle commande la voiture et qu'elle aille demain matin chez maîtrise Albéry sans s'embarrasser si M. Mandelbert l'approuve ou ne l'approuve pas. Je parie qu'alors il ne pensera plus à elle et qu'il donnera toute son attention à Miss Winmer. Oh, si c'est là tout, dit avec vivacité Sir Hugues, je suis sûre que ma chère Camilla le fera d'autant plus aisément qu'elle obligera sa cousine. Maintenant, je souhaite que mes deux bonnes filles s'embrassent et soient amies. Pour moi, je suis leur amie du fond de mon cœur. Camilla ne répondit pas à cette proposition qu'elle trouvait injuste et cruelle. Sir Hugues l'attira vers Indiana, et de sa part, une froide salutation parut une espèce de consentement tacite à un plan qu'elle n'eut pas la force de combattre. Alors on se sépara. Sir Hugues joyeux, Miss Margland triomphante, Indiana moitié satisfaite, moitié dépitée, Camilla le cœur si plein qu'elle pouvait à peine respirer. Eugénia était encore dans sa chambre. Celle-ci, s'apercevant que l'émotion de sa sœur s'était accrue, s'informa tendrement si elle avait quelque nouvelle cause. « Hélas, oui, ma chère Eugénia, on exige de moi le plus cruel sacrifice. On m'ordonne de m'éloigner d'Edgar Mandelbert, de résister à ses conseils. On veut que je le désoblige, le dédaigne, que je sois toujours avec lui, sévère et repoussante. Mon oncle lui-même, mon oncle, doux, bon, indulgent comme il est, a été prévenu au point de me donner cet ordre terrible. Mon oncle, répondit Eugénia, est incapable de faire de la peine à qui que ce soit, et encore moins à vous qu'il aime tant. Il faut qu'il n'ait pas compris les choses. Il aura cru que plaire ou déplaire à Edgar Mandelbert ne pouvait être pour vous d'aucune importance, lorsqu'au contraire cela intéresse tant Indiana. Cela est mille et mille fois plus important pour moi que pour elle, s'écria vivement Camilla. Elle ne sait point apprécier son honnêteté, elle ne connaît pas son mérite, elle est insensible à toutes ses vertus. Vous jugez trop précipitamment, ma chère Camilla. Elle n'a pas, à la vérité, toute la chaleur de votre âme. Mais si elle ne désire pas ce mariage, pourquoi la crainte d'une rupture lui cause-t-elle tant de troubles ? Camilla se recueillit et s'efforça de devenir plus calme. Sans doute, continua la tranquille Eugénia, à sa place, vous ne vous fussiez pas comporté comme elle. Mais enfin, si vous aviez conçu, même sans motif, des alarmes sur l'affection d'un homme que vous devriez épouser, si cet homme était aussi aimable qu'Edgar, n'auriez-vous pas été troublé? Pesez ce que je vous dis avec plus de sang-froid, et vous ne pourrez vous refuser à mes raisons. Je suis sûre que vous ne voulez pas rendre Indiana malheureuse. Oh non, pour tout l'univers, répondit Camilla. Cependant, elle ne peut être que malheureuse si elle imagine que vous attirez l'attention d'Edgar plus qu'elle-même. Camilla n'eut pas un mot à répondre. La conversation finie, elle prit un livre et s'étant fait intérieurement les plus vives remontrances, elle s'imposa à elle-même de paraître à l'heure du thé avec un air tranquille. Le soir, arriva la réponse suivante du docteur Marchmonde. À Edgar Mandelbert, écuyer. À la rectorie de Clèves, vendredi soir. Mon cher ami, comme vous attendez impatiemment ma réponse, une autre fois, je vous découvrirai mes pensées et vous communiquerai mes désirs. Aujourd'hui, je ne puis vous dire qu'un mot. L'instant où vous aurez fait connaître vos sentiments à votre jeune lady réduira les miens au silence. Alors votre honneur et sa félicité se confondront ensemble et je ne sais pas lequel je voudrais le moins attaquer. Tout ce que d'autres hommes pourraient se permettre d'avilissant est pour vous impossible. Vous êtes incapable de vous faire le jeu d'une préférence que pourrait vous valoir la déclaration de vos sentiments. Votre chaleur à vous assurer la possession de celle que vous regardez comme vous devant donner le bonheur vous privera, croyez-moi, de ces mille délices qu'on ne peut nommer ni définir, mais auxquelles vous tenez obstinément et dont votre caractère compose l'idée de vos jouissances. En deux mots, laissez-moi vous dire ce que dans peu vous vous direz vous-même chaque jour. Vous ne pouvez être heureux si vous n'êtes pas exclusivement aimé. Par ce mot « exclusivement », je n'entends pas l'exclusion de tout autre attachement, bien loin de là. Ceux qui souhaitent dans une femme l'oubli de toutes ses premières amitiés, des affections de son jeune âge, affaiblissent les plus beaux liens de l'humanité, rompent le premier contrat de l'intégrité naturelle et non calculée. Le mari, qui veut un attachement fondé sur la raison plutôt que romanesque, doit songer à entretenir et non à étouffer les tendres sentiments de la nature dans leur premier développement. La préférence dont je veux que vous vous assuriez ne blesse point ses droits antérieurs. C'est une préférence indépendante de votre situation dans le monde et de l'aveu de votre passion. Une préférence, enfin, qui tienne à vous-même, non au rang avec lequel vous pouvez tenter l'ambition d'une femme, non aux caresses de la flatterie qui amollissent le cœur après avoir tourné la tête. Observez donc si votre caractère, l'ensemble de votre conduite habituelle, ont fait impression sur son esprit, si son estime pour vous ne tient point à l'attrait de l'assiduité et de l'adulation, si vos dispositions naturelles et vos manières lui rendent votre société agréable et lui font désirer votre approbation. C'est ainsi seulement que vous pouvez assurer votre bonheur. Souvenez-vous que vous pouvez toujours avancer, mais jamais, avec honneur, revenir sur vos pas. Et croyez-moi lorsque je vous dis que le plus simple aveu d'une préférence, qui ne lie les hommes que conditionnellement, est souvent ce qui lie irrévocablement les femmes. Cet aveu charme tellement leur amour-propre qu'en l'écoutant, elles se persuadent aisément partager des sentiments qui, la minute d'auparavant, ne s'étaient pas même présentés à leur imagination. Je n'exige pas, mon cher ami, une plus longue condescendance de votre part. Je vous prie seulement de relire deux fois ce que je vous écris et d'agir alors selon l'impulsion de cette lecture. Je suis votre fidèle et obligé, Gabriel Marchemont. Edgar parcourut cette lettre avec une impatience entièrement étrangère à son caractère. « Pourquoi, s'écria-t-il, m'opposer ces doutes insupportables et ces difficultés sans motif? Je ne lui demande que la restitution de ma promesse et il me la donne avec des expressions qui m'ôtent presque le pouvoir de m'en servir. » Triste et mécontent, il renferma promptement la lettre dans son portefeuille, disposé à chercher Camilla et à risquer une entrevue dont les suites devaient dépendre des sentiments qu'il aurait éveillés en elle. Il était déjà sur l'escalier quand la lettre du recteur lui revint à l'esprit. Il la tira de son portefeuille et la relut. « Il a raison, dit-il, je chercherai à m'assurer de ses sentiments, à distinguer une estime véritable de ceux qui peut n'être simplement qu'une suite de l'intimité de notre situation. » Ce plan arrêté, il s'applaudit de son triomphe sur sa passion et le crut complet pour avoir décidé de différer d'une semaine entière la déclaration de ses sentiments.